Je ne suis pas un paysan, moi. Je suis un gestionnaire. Et pour te la gestionner, je te l'ai gestionné, la nature, pas chez moi.
CO2, mon amour.
Vous voulez voir mes 400 tétards, comme c'est propre, c'est nickel. Y a plus rien.
Avec Denis Chessoux.
Ah ouais, y avait les sauterelles, les coccinelles, les escargottes, ces petites saloperies. Aujourd'hui, y a plus rien. Y a plus une herbe, plus un animal, rien. Avec le Xerox 3000. Ah, ça te nettoie tout.
Sur France Inter.
Ah bah Benuro, ça marche toujours, oui, c'est assez ancien, mais c'est toujours plus ou moins d'actualité. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2, mon amour. Donc, une émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature, en tout cas qui essaie, avec Julien Dumont aujourd'hui à la technique, et nous avons préparé l'émission avec Camille Blanès, et c'est Hélène Bisio cette semaine qui la réalise. Allez, une petite humeur. Les animaux pour la Saint-Valentin offrent en général très peu de fleurs avec plein de kérosène dans leurs pétales à leur compagne. Très peu de champagne, pas de resto, un parfum, même pas, ou alors le leur. Donc, la Saint-Valentin dans la nature, comment ça s'est passé? Comment ça marche? Est-ce que ça fricote en février? Alors, je ne sais pas trop qui est ce Valentin dont tous les revendeurs de roses du Kenya nous parlent à foison, m'a dit la chouette-ulotte en sautant sur sa branche. Mais on ne l'a pas attendu pour savoir que dès que les jours rallongent, on a des fourmis dans le croupion. Les oies cendrées, en période prénuptiale, ont rejoint, grâce aux associations, les nordiques pâturages sans aucun trou dans le plastron. Les cousins hiboux se recoiffent les grettes et dans les branches nues font des... Alors bien sûr, en février, il fait encore froid, mais avec un bon duvet dans les bois, c'est déjà Copacabana. Et que je te couine, que je te chuinte et que je te chanterai demain, baisse à mes mots chaud, le bec en cœur en gonflant la collerette. Mais avant tout, en février, il faut survivre, s'alimenter, arracher des calories partout où c'est possible. Et la clientèle emplumée appréciera encore les bienfaits du gras dans la mangeoire. Quand on est un passereau, il faut becquer la moitié de son poids tous les jours si on veut faire le beau. La dent nuptiale bat son plein chez les écureuils, les lièvres et les castors. Le lynx, le chat forestier, bon, qui n'a rien à voir avec la feignasse de chat qui roupille 18 heures sur votre canapé. Je sais, moi j'ai le même. Donc voilà. Eux, ils ont repris les griffes, ils ont repris griffes avec le monde. En février, les fleurs mâles du noisetier pavoisent en allongeant leurs chatons au jaune délicat. Et c'est grâce à eux qu'on cueillera d'ailleurs des noisettes plus tard dans l'arrière-saison. La salamandre râle un peu à cause du bruit, mais elle étire ses papates ankylosées au moindre redoux en briquant son beau gilet jaune au rond-point des cailloux, son gilet jaune et noir. Les chamois dévalent les névéeuils de février, ils descendent plus près des habitations pour trouver de la nourriture et les femelles attendront le mois de mai, le mois de juin, pour mettre bas. Les mésanges se contactent sur Tinder. Et déjà, on l'entend, le merle sifflote sous la douche au petit matin. On sent dans les ramures humides comme un frémissement de sève qui palpite. Mais non, c'est trop tôt pour mettre en perce le boulot. Allez, amène-toi un peu le printemps, si tu savais comment on t'attend. Mais l'hiver ne donnera pas sa part. Non, il fait le job, son boulot de gel, de froid, de neige, de soleil aux lumières rasantes, et les premières fleurs de l'amandier n'y pourront rien changer. Et les insectes? Eh ben pour eux, hiver-été, ils dégagent de la planète. Ah ben oui, urbanisation, agriculture tueuse de vie, déforestation. Alors oui, on en parle entre deux gilets jaunes et une équipe de rugby qui se fait écraser aussi comme des insectes. On en a moins parlé quand même que la fin du A380. Vous savez, c'est un gros oiseau rentré au nid après 25 milliards d'investissements. Vous nous en donnez même pas le tiers et on vous fait des miracles en France sur la biodiversité. Les bouts rouges d'alumine continuent de danser à Gardanne, à souiller les mers et tournent le CO2, les particules fines dans les poumons des adolescents. Loi anti-casseur, certes, mais loi anti-casse du vivant et de la terre. Ça, c'est pour quand ? Le monde de ces hommes merveilleusement inconséquents et parfois épuisants, dit l'insecte en se léchant les six papates. Et nous? Eh ben nous, on va continuer à limiter la casse, justement, et à réparer le monde. Alors, allez les enfants, on prend son masque à gaz, le seau pour ramasser tous les déchets qui traînent dans nos cerveaux, et hop, février, avec le renard si joli qui file comme une fusée, on va replanter de la vie. il y en a qui veulent replanter de la vie, et ben ce sont nos jeunes et le climat, parce que ça commence à bouger quand même pas mal. Il y a plus de 15 ans, sur cette même antenne, je vous l'ai dit plusieurs fois, comment désirez-vous votre planète ? Bleue, très bleue, mi-cuite ou à point ? Et ben ils en ont fait un slogan, et ben vraiment tant mieux. Première génération donc aujourd'hui à souffrir des dérèglements climatiques, et aussi la dernière à pouvoir agir, car ils ne sont pas véritablement décideurs. D'où cette réaction quand même que l'on voit un peu partout aujourd'hui, en Europe et aussi dans le monde. Donc c'est de l'espoir, parce que c'est une génération qui n'est pas du tout nihiliste. D'ailleurs, on en a la preuve. Bonjour Léna Lazare.
Bonjour.
Alors Léna, vous êtes étudiante, vous vous êtes mobilisée pour le climat aussi avec pas mal de copines et de copains. Vous êtes en licence de physique à Sorbonne, université. Vous avez créé une association écologique de la Sorbonne. Vous n'êtes pas les seuls. Vous essayez de vous fédérer donc un petit peu les uns les autres. Quelle est votre réaction, vous, aujourd'hui, donc par rapport à ce qui se passe ? C'est-à-dire que vous avez envie de bouger, parce que qu'est-ce que vous avez vraiment envie de nous dire ?
Alors, clairement, là, oui. ce qu'on a voulu faire avec ce mouvement de grève pour l'environnement, c'est de montrer des revendications fortes pour réagir face à l'urgence climatique et essayer d'instaurer un rapport de force avec le gouvernement en proposant des actions de désobéissance civile et en invitant les gens à réfléchir à comment agir de manière efficace pour enfin cesser l'inaction politique vis-à-vis de cette problématique.
Alors on entend bien, vous avez envie de bouger. C'est vrai qu'il a quand même fallu 8 semaines au gouvernement pour réagir à l'affaire du siècle, qui a été lancée le 18 décembre. Donc une pétition avec plus de 2 100 000 signatures aujourd'hui. Donc vous vous dites, on n'a que ça à faire, c'est-à-dire de la désobéissance civile. Donc ce sera tous les vendredis, c'est ça ? C'est-à-dire que vous allez à chaque fois donc lancer une espèce de défi et puis réagir ou ne pas réagir ?
C'est ça. En fait, chaque semaine, on a une revendication bien précise pour le gouvernement, et on lui propose donc de. En fait, c'est une sorte de. On propose au gouvernement un devoir qu'il a à nous rendre chaque semaine vis-à-vis de cette revendication. Et si on n'a pas une réponse satisfaisante, en effet, on propose à la jeunesse francilienne de participer à des actions de désobéissance civile.
Alors ce que vous voulez dire aussi, c'est que en fait, à quoi bon parfois continuer à faire des études si la chose principale qui est pour vous effectivement une terre en bon état de marche ne réussit pas. Un grand merci à vous donc Léna Lazare. Voilà donc une jeunesse qui ne va pas au charbon mais qui va au climat. Cher Frédéric Danhé, bonjour à vous.
Bonjour Denis Chessou.
Alors juste un petit mot là aussi, une chose formidable par rapport au climat, ce sont, première peut-être actualité, les nouveaux accords de commerce et d'investissement entre l'Union européenne et Singapour. Qu'est-ce que l'on peut en dire ? C'est un nouveau CETA, mais avec Singapour ?
Oui, écoutez, c'est un nouveau lit douillet dans une chambre 5 étoiles pour les grands financiers et puis les grands groupes internationaux qui y trouveront, comment dirais-je, une défiscalisation efficace et puis le non-respect des conventions 87 et 111 de l'Office international du travail sur la liberté d'association et les discriminations. Donc c'est tout bénéfice pour bien travailler. Quant au respect des normes et des labels français, effectivement, ils seront respectés là-bas, mais pour le reste, les questions d'environnement, on s'en fout un peu. Donc
bien.
Ça ne sert à rien.
Ok, on va continuer donc, on va avec des exemples tout à fait positifs. On va parler d'agriculture, oui, on a des choses très très bien au cours de cette émission. C'est une petite mise en bouche. Allez, musique. Once again, it shakes, it stirs you. I'm getting close enough to feel the heat. And I know just what you're going to say. Get as far as you can, make a U-turn, baby. But when I'm up close, it's too late to turn back. Well, just like the book, I'm attracted to the late. I'm attracted to the late. I'm attracted to the burn. Back on my tiptoes, oh, watch me shudder. By my own will, I'm here for the fun. No matter where I start.
to turn kite. Well, just like a book, I'm a traitor. Till the late, I'm a traitor. Till the late, I'm a traitor. To the burn.
Il me semble, je suis même certain, c'était Loudoyon, Burn, choisi par notre programmateur Thierry Dupin.
Il y a quelque chose qui me tracasse.
Et quoi?
L'eau. Un pied de yé, ça boit comme un homme. Pour arroser mes 50 plantes, il a fallu m'arracher la peau des mains sur la corde du puits.
CO2, mon amour.
Et si on achetait le champ et la source de Pic Bouffigue là-haut? Tu vois son père, comme un vieux, il faisait des pleines charrettes de légumes.
Tu crois qu'il la vendrait, sa ferme?
Quand il n'en fait rien, il n'en fera plus jamais rien. Alors tu me fais voir les sous.
Sur France Inter.
Alors ça n'a pas été le même climat du tout, hein, parce que là on était un peu quand même dans le midi. Cette fois-ci, nous allons partir dans le pays de Caux. On part en Normandie. Écoutez, cet homme agriculteur, il s'appelle Jacques de Cols.
Alors sol en Caux, c'est adapter les principes de l'agriculture de conservation des sols au pays de Caux, qui est notre petite région locale. Donc avec beaucoup de cultures industrielles, pommes de terre, betteraves à sucre, lin textile. Et voilà, il faut arriver à décliner ces techniques culturales à notre région.
Quel est le principe?
Alors le principe, il repose sur trois piliers. Réduire le travail du sol avec l'arrêt du labour et supprimer la plupart des étapes de retournement de la terre. Assurer une couverture permanente du sol à travers... soit des intercultures entre deux récoltes ou soit des débris végétaux qu'on laisse à la surface, et allonger les rotations, enrichir les rotations avec des cultures variées de printemps, d'automne. Et puis un quatrième paramètre qui est important, raisonner au maximum ces pratiques de produits phytosanitaires, notamment insecticides, fongicides, qui sont assez destructeurs de la vie du sol.
Alors vous n'êtes pas les premiers bien sûr à le faire. En Normandie c'est quand même assez récent hein, quand même.
Oui, tout à fait. En fait, c'est une région qui s'appuie sur beaucoup de cultures industrielles, donc qui économiquement encaisse plutôt bien la crise agricole. Et donc, on a peut-être un peu tardé à se remettre en question, mais aujourd'hui, on voit bien que nos pratiques ne sont pas durables pour l'environnement, pour notre sol. On a des gros problèmes d'érosion, des gros problèmes de qualité de l'eau. Donc, l'enjeu, il est énorme.
Alors, à une semaine de ce salon de l'agriculture, on a pris à nous un petit peu d'avance avec le président donc, de Sol en Caux, donc Jacques de Cols que vous avez entendu. Et entre le conventionnel, le chimique que l'on connaît et le bio, il y a quand même aussi d'autres voies qui existent. Il y a l'agriculture de conservation donc des sols. J'ai voulu donc en savoir plus, donc direction ce pays de Caux. Là, on n'était pas loin de Fécamp. Là, on va se remettre plutôt du côté du Havre avec Emmanuel Palfray, donc agriculteur et président du GI2E Terre Énergie, donc pays de Caux. On est du côté de Gonfreville-Lorcher. Ah, alors là, Emmanuel Palfray, on est en plein pays de Caux, hein. Ah, il y a du gros choix. Et alors, on est donc avec vous. On est face à vos terres. Je sais pas. On voit pas quand même les 70 hectares d'un seul tenant, là, quand même, ici. Non, c'est bien découpé, là.
Oui, j'ai une parcelle autour de la ferme, donc du corps de ferme, qui fait 40 hectares. Et puis, j'ai une parcelle de 20 hectares, un peu plus loin, et à 3 km. Et puis, une autre petite parcelle à 2 km.
On a quoi? On a du lin, on a des pommes de terre. Qu'est-ce qu'on a?
Alors, la ferme traditionnelle du Pays de Caux, c'était la polyculture, élevage bovin, plutôt. Ouais. Les vaches ici ont été. Arrêté en 80. Ensuite, nous avons plutôt orienté les cultures sur les pommes de terre de consommation, plus des betteraves à sucre, parce qu'on a des contrats avec une sucrerie locale, ouais. Du lin textile, qui est vraiment une spécialité d'ici.
C'est celui qui part en Chine et qui après revient chez nous dans nos magasins.
Effectivement, on a très peu de filatures en Europe et la majorité du lin est acheté par les Chinois, filé et tissé en Chine et revient parfois pour la teinture et être préparé en Europe, voire au Brésil et revenir en Europe ensuite. Et ensuite, on a aussi des céréales pour compléter l'assolement.
Et alors, ce qui nous amène ici, c'est justement de parler aussi de vos sols, parce que vous êtes quand même rendu compte qu'il y avait parfois un léger souci. Le sol foutait le camp, quoi. Lorsque vous aviez des bonnes bastons de pluie, de plus en plus, c'était ça. Mais est-ce que les terrains que l'on voit, est-ce qu'avant, il y avait beaucoup de haies bocagères, non ou pas,
Quand on faisait de la polyculture élevage, c'est vrai qu'il y avait des herbages, donc des prés autour du corps de ferme. On mettait les vaches laitières autour du corps de ferme pour les traire tous les deux fois par jour. Et puis, un peu plus loin, il y avait les champs, où il y avait déjà des betteraves, du lin, c'est assez traditionnel.
Puis après, donc, ça a été remembré ou...
Non, on a labouré des herbages, parce qu'on a arrêté les vaches, et on a eu tendance à faire des champs plus grands. Ouais, il n'y avait pas de haies chez nous, mais beaucoup, il y a des talus autour des corps de ferme.
D'accord.
On n'a pas de spécialité de haies.
Okay.
Par contre, les champs étaient plus petits, et à l'époque où j'ai repris la ferme en 92, il y avait derrière le corps de ferme 36 hectares. Un jour, il y a eu un orage en septembre, une parcelle qui faisait 600 mètres de long sur 200 mètres de large a été coupée au milieu par l'orage qui a emmené toute l'eau du champ de pommes de terre, qui a emmené avec lui des pommes de terre, et les pommes de terre se sont retrouvées dans les caves du hameau en dessous, en aval.
Ah oui, d'accord. On peut se dire que ça allait plus vite pour arriver dans l'assiette, mais quand même, c'était pas le but, quoi.
Non, c'était pas le but, donc j'étais pas bien. J'ai trouvé qu'il fallait faire quelque chose. Donc, avec... À l'époque, il y avait eu un fonds pour la gestion de l'espace rural. On a pu constituer des digues. Alors, je m'étais battu parce que c'était pas du tout la volonté politique de l'époque. Ils voulaient plutôt faire des grands bassins de retenue.
Ouais.
Et moi, pour sauvegarder des sols, j'ai préféré faire des diguettes à différents endroits. C'est une technique que j'avais rapportée d'Afrique. Ouais. J'avais passé 2 ans sur la gestion de l'eau. Et effectivement, ça a très bien fonctionné. Hein. C'est l'idée de la culture en espalier. Et donc, ça m'a permis de ne plus voir mes sols partir au moindre orage. Et après cela, j'ai mis en place aussi une réflexion sur la matière organique des sols, parce que c'est un vrai sujet. Et pour ça, j'ai récupéré les déchets verts des villes autour de moi. On a passé un contrat avec la ville, c'était au moment où on ne devait plus brûler, où les déchetteries étaient en train de se constituer. Et donc les villes avaient des soucis pour éliminer leurs déchets verts. Et donc on s'est mis dans le compostage, c'était aussi quelque chose de très nouveau, et aussi mes voisins m'ont dit qu'est-ce qu'il fait là.
C'est-à-dire pour nourrir les sols, pour amender de nouveau au sol, quoi.
Exactement, pour mettre de la matière organique, apporter les éléments fertilisants comme la potasse, le phosphate,
oui.
Un petit peu d'azote et tous les autres éléments, et surtout redonner de la vie au sol.
En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on est passé en l'espace de 50-60 ans du parfait petit chimiste, et maintenant on refait de l'agronomie.
Alors, on refait de l'agronomie, mais c'est très difficile de faire le chemin. C'est-à-dire qu'on est bien convaincu que le but de notre agriculture, alors qu'on dit productiviste, c'est de pas trop tomber en rendement, parce que sinon, ça va pas fonctionner non plus. Donc, le but, c'est maintenir les rendements, redonner de la vie au sol avec une multiplication des rotations et même des cultures associées. C'est-à-dire qu'on va semer du blé avec de la luzerne, laisser couper le blé, laisser pousser la luzerne, ensuite implanter dans le couvert végétal. Le but ultime, c'est de ne plus trop toucher au sol de façon mécanique, mais par contre mettre des plantes qui nous servent et développer les vers de terre qui vont faire le travail que faisait autrefois la charrue.
Emmanuel Palfrey, là, pas très loin d'ici, donc on voit aussi ce que vous avez planté. Là, c'est très intéressant parce que vous êtes regroupé donc avec d'autres agriculteurs, toujours pour nourrir ce sol, toujours pour empêcher à ce sol de fiche le camp. Et là, on voit des bandes. Alors donc,
des bandes ligno-cellulosiques.
Cellulosiques.
Voilà, des bandes parce que effectivement, c'est planté en bandes parce que c'est plus facile à entretenir le pied. Et puis on a des machines pour planter qui vont en ligne. Donc on met des lignes successives les unes à côté des autres. Ligno-cellulosique parce qu'en fait, on essaye d'aller chercher de la lignine, c'est-à-dire la partie fibreuse du bois, pour en faire de l'énergie a priori. Alors de l'énergie ou du paillage éventuellement. Le paillage étant destiné éventuellement à des litières pour les bovins, ou à pailler des massifs pour les horticulteurs,
pour les communes, etc.
Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on utilise ? Je crois qu'il y a du miscanthus.
On a plusieurs solutions. Il y a du miscanthus et il y a du saule. Chez moi, c'est plutôt du saule.
Ouais.
Donc, pour revenir à l'érosion, les passages d'eau qui étaient, on appelle ça des talvecs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas toujours en eau, mais qui prennent l'eau quand, donc les points bas quand il y a des gros orages. S'ils ne sont pas enherbés ou si ils n'ont pas une protection particulière, c'est-à-dire que si on laisse le champ tel que, on va avoir des ravinages,
oui.
On peut dire ça. Et donc la terre va s'en aller avec son engrais, et le pire pour un agriculteur, c'est quand il voit son sol partir. Et donc on essaie de trouver des solutions de substitution, et donc c'en est une parmi d'autres.
Après cela, donc une fois qu'on a soit ce miscanthus, soit ces saules, bon, je pense qu'il faut les tailler quand même assez vite. C'est des rotations courtes, hein, comme on dit, Emmanuel.
Oui, on est sur une période de 3 ans en général pour faire la taille.
Ouais.
Donc on a une récolteuse qui nous permet de mettre ce bois en petits copeaux, et ensuite il est destiné aux chaudières, souvent des chaudières de collectivité, ouais, pour le brûler.
Et donc il faut une filière, et c'est là que ça s'organise,
voilà,
aussi.
C'est ça.
Oui, alors la filière, déboucher, quoi.
La filière, elle est complètement nouvelle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tradition dans les fermes. Alors il y avait la tradition de faire le bois de chauffage l'hiver, casser du bois pendant 3 mois de l'année pour pouvoir chauffer l'habitation. Mais en réalité, d'abord ça perdait de son sens parce qu'il n'y avait plus assez de gens dans les fermes pour le faire. Et maintenant, on a des techniques nouvelles qui permettent d'y passer beaucoup moins de temps. Donc c'est le déchiquetage du bois. Il faut savoir qu'une déchiqueteuse, elle produit des grosses déchiqueteuses 100 mètres cubes à l'heure, donc un semi-remorque à l'heure, et ça coûte 1 litre de fuel à la tonne produite. Donc il y a un vrai, parce que souvent on pose la question du bilan énergétique, mais là il n'y a pas de question à se poser. Et en plus, on essaie d'organiser des filières courtes, c'est-à-dire que le bois qui va être produit ici, il sera brûlé à 10 km d'ici, vraisemblablement au Havre ou dans les environs.
Et c'est reproductible surtout.
Et c'est reproductible, oui, parce qu'en fait, ces machines ne valent pas très cher si on les amortit sur 7 ans ou 5 ans. Avec une Kuma, par exemple, comme support, elle va servir à beaucoup d'agriculteurs et va pouvoir récolter une part importante.
Les Kumas, ce sont des groupements d'agriculteurs.
Ça s'appelle, c'est des coopératives d'utilisation du matériel agricole. Voilà. Donc c'est du matériel qui est partagé par plusieurs agriculteurs. Et donc c'est une manière de diviser les coûts et donc d'avoir accès pour pas trop cher à des machines qui sont efficientes.
Comment vous voyez maintenant cet avenir, vous qui êtes là, vous avez pris la ferme de votre père, comment on vit ça, quoi, tout ce changement?
Aujourd'hui, la vraie remise en cause, elle concerne, je pense, la vie du sol, c'est-à-dire redonner de la vie au sol, et ça c'est un élément fondamental. Il faut aussi retrouver dans les campagnes un sens à la société, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, je reviens des environs de Châteauroux, on ne peut pas considérer que de voir 3 agriculteurs dans un canton et des villages déserts, ça peut être une solution pour un pays. Et donc, toutes ces questions-là nous touchent de plein fouet. On n'est pas juste en train de produire à manger, on est aussi garant du paysage, garant d'équilibre écologique. Et je pense que 90% en ont conscience. Sauf que même s'ils ont compris les changements de volonté politique, les changements des volontés sociétales, à un moment donné, l'agriculteur, il se trouve pris entre son banquier et les investissements qu'il doit rembourser, et il change pas sa façon de faire en 3 ans de temps. Et même si moi, je suis très convaincu de l'agriculture de conservation, pour l'instant, j'en suis à mes débuts, mais je pense que c'est surtout des moyens intellectuels de l'apport de matière grise dans nos fermes pour nous montrer qu'il y a des chemins possibles, même si c'est compliqué.
Depuis que vous travaillez ainsi, Emmanuel Palfrey, donc a priori, on peut penser que vous utilisez moins de pesticides, inévitablement.
Alors, le but, il est bien d'utiliser moins de pesticides. C'est une voie d'avenir, sans doute avant le bio, parce qu'on fait aussi, à mon avis, beaucoup de confusion par rapport au bio. Le bio, c'est facile à comprendre, mais en réalité, la vraie espérance par rapport au réchauffement climatique, c'est de réintégrer du carbone dans le sol. C'est le débat qu'on doit mener. C'est un combat de dire il faut un pourcentage de carbone dans le sol qui va être pris dans l'air, remis dans le sol et qui va éviter ce réchauffement. Alors évidemment, à l'échelle de la France...
C'est les fameux 4 pour 1000 dont on a entendu parler.
C'est ça. Mais l'agriculture de conservation, avec cette réintroduction du carbone dans le sol, amènera pratiquement, par voie de conséquence, au bio, à quelques détails près. Alors, sans doute que ça va faire bondir des auditeurs, mais moi je pense par exemple que l'histoire du glyphosate est un tout petit morceau de l'affaire énorme des pesticides aujourd'hui. Et peut-être que s'il fallait s'attaquer à un produit, c'est pas forcément à celui-là qu'il fallait s'attaquer en premier. C'est-à-dire que moi, évidemment, le glyphosate, quand on le met à 4 litres hectare sur un sol nu, il a des répercussions néfastes prouvées. Mais quand c'est quelqu'un qui fait de l'agriculture conservation, qui a un sol couvert et qui a besoin d'un litre de glyphosate par an pour arriver à limiter la levée d'une mauvaise herbe qu'il n'arrive pas à maîtriser et qui le fait avec beaucoup de doigté, il n'y a aucun problème là-dessus. Et je pense que ce qui est très difficile à comprendre, et on ne peut pas en vouloir aux auditeurs de ne pas forcément avoir toutes les cartes en main, c'est que notre métier est devenu extrêmement complexe à chaque situation, il y a une réponse qui est individuelle et singulière. Il n'y a plus de réponse toute faite. Voilà le débat. Et le débat, il est pas simple.
Bon, on rappelle une chose qu'on a compris, c'est que vous n'êtes pas non plus quelqu'un qui est contre le bio, hein, loin de là.
Ah non, moi je crois que le bio est un très bon repère pour savoir où, vers quoi on doit aller. Mais on ne peut pas aller vers le bio n'importe comment. C'est-à-dire que moi j'ai un voisin, par exemple, qui fait des endives, et bon, c'est plus le cas, mais à un certain moment, il utilisait 1000 litres de fioul pour faire de la vapeur et désherber son sol. Je pense que c'est pas du vrai bio. Alors, s'il m'entend, il va m'en vouloir, mais bon, les techniques ont évolué et ça change. Je veux dire, à un moment donné, il faut de la cohérence. Et le problème du bio aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas adapté à la culture de conservation. Il manque des éléments. Donc, le bio aujourd'hui, c'est on travaille le sol. À part quelques exceptions, hein. Évidemment, dans le maraîchage, ça existe beaucoup et ça se multiplie. Mais en grande culture, c'est très compliqué de faire du bio et de la culture de conservation. Et moi, je pense que c'est d'abord l'agriculture de conservation qui va tendre vers le bio, mais il nous manque encore quelques outils pour réussir à le faire de façon complète.
Et pour finir, et toujours dans le Pays de Caux, et ben on va retrouver Jacques de Colse de Sol en Caux. Et alors là, vous avez un truc imparable pour compter les vers de terre.
Tout à fait, c'est la moutarde. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de donner des noms. Donc une marque très connue de moutarde, ouais. Très forte, qui fait remonter les vers de terre. Et sur un mètre carré, on les compte et c'est un moyen très fiable d'estimer la vie d'un sol.
Comment fait-on pour être contagieux auprès de ses pairs qui regardent ça parfois avec un œil un peu distancié quand même.
Moi, ça fait 4 ans que j'ai changé mes pratiques. Le système économiquement tient debout. Les voisins qui avaient un regard un peu moqueur au début, aujourd'hui, commencent à venir me voir en me demandant comment on fait. Donc je pense que par l'exemple, on y arrivera.
Qu'est-ce qui vous plaît profondément dans cette affaire-là ?
L'enjeu premier, c'était avant tout de continuer à pouvoir vivre de notre travail. Donc il était hors de question de faire une agriculture durable et d'un point de vue environnemental, mais qui n'était pas viable économiquement. Et après, derrière, c'est travailler avec le vivant, c'est redécouvrir le vivant et lui laisser toute sa place. Donc, enfin, moi, j'ai l'impression de redécouvrir mon métier.
C'est pas mal, ça, comme phrase. Hein, j'ai l'impression de redécouvrir mon métier. Donc, Emmanuel Palfrey et Jacques de Colse. Donc, voilà, on voulait qu'il y ait une parole aussi différente dans cette émission et sur France Inter en général. C'est aussi ce qui nous anime. Frédéric Dandré, vous qui connaissez bien donc ces sujets, vous venez de sortir Acheter bio, à qui faire confiance aux éditions Albin Michel. On se retrouvera ensemble le 16 mars en direct du Salon du Livre avec cet ouvrage. Vous avez fait aussi L'assiette est dans le pré avec Gilles Macagnot aux éditions Delachaux et Niestlé, qui est une somme avec de l'humour pour expliquer ce qu'est devenu effectivement notre agriculture. Vous avez entendu donc ces deux agriculteurs.
Eh ben, ils font partie de ces entre 10 et 20% d'agriculteurs qui ont changé de modèle et qui ont changé de modèle en ne travaillant plus ou en travaillant beaucoup moins le sol. Alors c'est pas anodin, hein, sur les grandes cultures, c'est un tiers des surfaces qui sont en sans labour et 3% qui sont en semis direct. C'est encore mieux le semis direct, c'est-à-dire là vous ne touchez plus du tout au sol, du tout, vous ne le griffez même plus. Là c'est une belle expérience Sol en Caux parce que, en plus qui est adossé à un programme de recherche pour voir comment on peut travailler en sans labour sur des cultures qui a priori sont impossibles sans labour, à savoir la patate, la pomme de terre et le lin. Et manifestement, ça fonctionne. Ils sont en train de démontrer tout simplement, et on l'a bien entendu là à l'antenne, que cette nouvelle agriculture, c'est une agriculture avec le cerveau, c'est une agriculture à la parcelle, c'est une agriculture où l'on réfléchit, où l'on tente de pallier ce pied du mur auquel on se trouve, c'est-à-dire je ne laboure plus mes sols, donc je ne peux plus désherber mécaniquement, donc à un moment ou un autre, je dois pulvériser. Et à l'inverse, vous avez le monde du bio, le maraîchage par exemple, qui lui laboure, mais du coup abîme les sols forcément en labourant, ou alors utilise des méthodes telles que celles qui ont été décrites avec de la vapeur d'eau. On a deux systèmes qui sont pas du tout opposés. D'ailleurs, notre interlocuteur l'a dit, hein, le bio est en ligne d'horizon, mais on y va par les chemins que l'on veut. En tout cas, nous, le chemin que l'on prend, c'est un chemin sans labour. Il reste encore le glyphosate. Pour l'instant, on ne sait pas encore comment on pourrait s'en passer. Moi, je trouve ça vachement réjouissant. Et ça rappelle une chose, l'agriculture, faut pas l'oublier, c'est d'abord le sol. Et c'est un sol qui doit être couvert en permanence tout le long de l'année. C'est un sol qui doit être travaillé le moins possible. C'est ça, d'abord, l'agriculture, avant de penser à autre chose.
Alors, c'est pas forcément faire l'apologie du glyphosate.
Évidemment. Hein,
on est bien d'accord donc là-dessus, parce qu'on connaît aussi donc les méfaits de cette affaire-là. Mais c'est intéressant d'entendre effectivement des gens qui vous disent, on en a encore, on va dire, besoin, peu. c'est pas pour autant qu'on va l'utiliser, mais quand même.
Non, voilà, c'est en ça. Fait, c'est une béquille, c'est souvent une béquille psychologique, mais faut pas l'arrêter. Enfin, en tout cas, faut pas l'arrêter sans donner les moyens aux agriculteurs de trouver quelque chose d'autre.
Alors, ce qui est assez affolant, c'est qu'aujourd'hui, vous avez le glyphosate bis qui est déjà prêt, si vous
évidemment.
Voulez, de faire des chimies. Et, non, mais en plus, c'est des nanoparticules. Autrement dit,
encore mieux.
C'est encore mieux, c'est-à-dire que ça va être indétectable.
Vous voyez, c'est génial.
Ça, ils vont nous faire une com merveilleuse. Magnifique. Là-dessus, on vous en parlera, on vous donnera tous les noms, les machins. Bah, c'est formidable. Les coquelicots, bah, vous en avez entendu parler, bah, bien sûr. Et là, on va avoir un sujet, on va continuer le sujet. Ça va être intéressant avec un débat. Là, ça va être un peu chaud, mais ça va être bien aussi. Je vous en dis pas plus. Émilie Loiseau, eh bah, c'est elle qui, évidemment, participe à Nous voulons des coquelicots et qui a écrit cette chanson pour eux.
Mesurez le temps. Avez-vous mesuré le vent? Avez-vous mesuré la nuit, la vie? Viens avec moi, mon vieux pays. Le jour se lève, le vent nos rêves aussi. Je veux faire l'amour des enfants qui se baigneront dans les rivières en oubliant. Viens avec moi, mon vieux pays. Le vent me rêve, le vent se lève aussi.
Coquelicot, bah oui, Émilie Loiseau.
J'aime pas les tomates.
Bah tu les enlèves.
J'aime pas les pommes de terre non plus.
CO2, mon amour.
J'aime pas les pommes de terre non plus, alors tu les enlèves aussi.
Il restera que la salade.
Et alors la salade, t'aimes pas la salade? Allez, mange.
Avec Denis Chessou.
Alors avant de faire un petit tour en Bretagne sur France Inter dans CO2 Mon Amour, quelques définitions, on va remettre ça à niveau, cher Frédéric Danoé. Quand on parle d'agriculture raisonnée, qu'est-ce que c'est?
C'est l'agriculture qui respecte juste les normes et ce que le gouvernement, est-ce que l'État demande à l'agriculture. Ce qui veut dire que l'agriculture non raisonnée ne respecte pas grand-chose, mais je ne l'ai pas dit.
D'accord, très bien. Bon, donc ça c'est juste la réglementation, donc déraisonnée, c'est ça. Agroforesterie.
L'agroforesterie, alors plutôt l'agroécologie, oui, parce que l'agroforesterie est une... Voilà, l'agroécologie c'est une agriculture qui exerce le moins possible de pression sur l'environnement, qui préserve les ressources naturelles. C'est une agriculture qui ne se fait qu'à la parcelle, c'est en gros ce qu'on a entendu tout à l'heure, et qui se base sur ce qu'on appelle les fonctionnalités écologiques, en l'occurrence là dans la conservation des sols, sur la vie des sols.
Et dedans, il y a l'agroforesterie.
C'est-à-dire qu'on introduit l'arbre dans le cycle de culture, on associe l'arbre aux haies, on respecte aussi les zones humides, on considère que ce n'est pas un ennemi au rendement des cultures.
Alors je ne sais pas si on nous écoute du côté de Glomel, dans les Côtes d'Armor, sûrement, au mois de décembre dernier, donc il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, dans cette commune des Côtes d'Armor, 1400 habitants, donc globalement, vous avez eu un événement intéressant. Vous avez eu une centaine de personnes qui se sont réunies, 50% d'agriculteurs conventionnels qui étaient venus s'expliquer avec les pro-coquelicots, donc nous voulons des coquelicots. Et donc ça, c'est assez inédit en France, quoi, faut le saluer, parce que, bon, vous allez voir, c'était évidemment un petit peu chaud, d'autant qu'on avait déjà parlé, nous, de ce lieu qui se trouve dans un site Céveso à haut niveau, comme on dit, parce que vous avez une plateforme de stockage de bidons de pesticides et d'engrais. Vous avez eu un taux de cancer extrêmement important qui a été repéré chez les salariés et les ex-salariés. Ce site appartient à la première coopérative agroalimentaire bretonne, à savoir Triskalia, qui est un mastodonte qui regroupe 16 000 agriculteurs conventionnels. Et Triskalia, on va dire, a une légère emprise particulière sur la commune de Glomel, hein, et sur le centre Bretagne en général, parce que le maire de Glomel est un agriculteur coopérateur de Triskalia, tout ce qu'il y a de plus conventionnel et ancien commercial du groupe, et le vice-président de la communauté de communes de Cresbraise, donc qui en fait partie, bah c'est le président de Triskalia. Voilà, donc comme ça on est entre soi. Et dans ces villages où l'agroalimentaire est quasiment la seule économie, bah la parole est généralement sclérosée. Donc là, c'est un petit peu libéré. C'est un reportage de Morgane Large et Inès Léraud.
Bon, alors je vous souhaite bonsoir à tous. On est très heureux de vous voir aussi nombreux ce soir.
Bon, donc moi, agriculteur à Pau également, système céréalier, conventionnel, comme vous dites. Donc, une chose est claire, c'est que dans l'appel au coquelicot qu'on lit dans la presse, c'est l'arrêt immédiat et total des pesticides. Ça veut dire, les enfants, pas de solution haute, vous arrêtez demain vos pesticides. Donc nous, aujourd'hui, notre démarche, c'est quoi? C'est d'arrêter d'être cloué au pilori, de la façon que c'est fait dans toute la presse. Dès que vous avez ramené vos arguments, c'est l'arrêt immédiat parce que nous sommes des pollueurs, toutes ces choses-là. Moi, je suis venu ici aujourd'hui pour rassurer des gens. On est des gens sérieux dans notre travail, dans notre vie. On a une certaine moralité également. On se dit on ne peut pas rester comme ça, les bras ballants, avec une opposition féroce, parce qu'on ne peut pas dire autrement, parce qu'on s'en prend plein la gueule quand même. Hein. Voilà, on est des pères de famille, on est des gens qui travaillons dans nos campagnes ici. On respecte nos voisins. On crée de l'emploi, on produit de la nourriture qui, à ce niveau-là, au niveau qualité sanitaire des aliments qu'on produit, je préfère rassurer tout le monde ici, nos produits sont tout à fait consommables et sont tout à fait de très bonne qualité. Et au niveau sanitaire, il n'y a rien à dire. Partant de ce principe-là, pourquoi on devrait changer notre système à partir qu'on peut vous garantir la sécurité sanitaire des aliments qu'on produit ?
Parce qu'il y a des problèmes dans la nature quand même.
Moi, je suis pas agricultrice, je suis à l'autre bout de la chaîne. Vous disiez tout à l'heure que votre boulot, c'était de nourrir les gens. Moi, je suis un gens et je mange la production locale de légumes que vous produisez. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi est-ce que j'ai du glyphosate dans mes urines ? Moi, je mange bio depuis des années. J'habite dans un endroit un peu protégé et voilà. Et j'ai voulu savoir si j'étais intoxiquée. Et voilà, on est plusieurs à s'être rendu compte qu'on avait un taux de glyphosate dans nos urines qui était super important.
Donc déjà, est-ce que vous êtes en bonne santé ? Bon, ça a l'air d'aller. Donc le glyphosate ne vous a pas complètement encore abîmé, et tant mieux. Oh, non, mais c'est important. C'est important quand même.
On ne va pas jusqu'à dire que c'est grâce au glyphosate qu'on a une santé.
Non, j'ai pas dit ça du tout. C'est en vente libre.
Mais voilà. Nous,
c'est autorisé, mais c'est dangereux. Les choses autorisées peuvent être dangereuses.
Nous, en agriculture professionnelle, raisonnée, le mot, il faut l'entendre, hein, raisonnée, on utilise du glyphosate avec des autorisations. On est dans la légalité complète pour cette affaire-là.
Jean-Marc Thomas, je suis paysan à Rostrumain et je milite à la Confédération Paysanne. Je rappelle quand même que la Confédération Paysanne n'a pas signé l'appel des coquelicots et ne relaye pas l'appel des coquelicots pour la simple et bonne raison, c'est que l'arrêt immédiat des pesticides, ça ne nous paraît pas possible. Ceci dit, l'objectif pour moi, il est essentiel. Il faut concevoir à terme une agriculture sans pesticides. Il faut qu'on regarde tous dans le même sens. Pourquoi ? C'est la santé des paysans et la santé des consommateurs est en jeu.
Et des riverains ?
N'oublions pas que dans le milieu agricole, on a une prévalence de certaines maladies bien supérieure aux autres catégories. Je pense au lymphome, Parkinson, certaines tumeurs du cerveau, le cancer de la prostate. Donc des études de l'INRA et de l'INSERM attestent qu'il y a bien un lien entre ces maladies et l'utilisation des pesticides. Si on s'adresse aux générations futures, c'est plus possible qu'on dise qu'on ne savait pas. Ok, on le sait, on a suffisamment d'éléments pour ça. La deuxième chose, on a parlé de biodiversité, j'y reviens pas. Pour moi, elle est menacée, la biodiversité. Ouais, on ne peut plus nier ça.
Les hirondelles, les oiseaux, c'est terminé.
Donc là, il faut vraiment qu'on s'interroge. Alors, vous avez parlé des procédures d'homologation. C'est important. C'est vrai qu'il y a tout un tas de procédures. Les produits n'arrivent pas comme ça sur le marché. Il y a des AMM. C'est vrai que les paysans, quand ils utilisent les produits phytosanitaires, il faut qu'ils montrent pas de blanche. Il y a tout un tas de procédures. On ne peut pas comme ça y prendre des pesticides comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Le problème, il est que ces procédures-là, moi, je les dénonce. Parce que, et ça, on le subit tous. Il y a des scandales qui arrivent aujourd'hui, malgré les AMM. Le scandale du prosulfocarbe. Vous avez entendu parler du prosulfocarbe.
Oui.
Bonsoir, il a eu une AMM, ce produit. Et bien, qu'est-ce qu'il va faire, le prosulfocarbe? Il est tellement volatile qu'il va contaminer des vergers de pommes. Ouais. Qui sont en bio, et les gars qui sont en bio et qui sont contaminés, ils se voient retirer leur certification. Je ne sais pas si vous voyez.
On a un apiculteur qui est là et qui va réagir.
Alors, malheureusement, je ne suis pas apiculteur professionnel encore, parce que Jean-Daniel Bourdonnais, j'habite à Glomel, à Trégornon, en face de la Cuma. Ça fait quelques années maintenant que je fais de l'apiculture de façon purement amateur au départ, et depuis 2-3 ans, j'ai vraiment la volonté d'en faire un métier, vivre de la terre. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui était dit tout à l'heure. Chacun a sa façon de penser, chacun fait comme il a envie, du moment que ça n'emmerde pas celui de le voisin. Mon problème, c'est que ça fait 3 ans, 4 ans, que j'ai plus de 30% de pertes à 50 des seins d'une année sur l'autre. Quel éleveur, laitier ou pas, pourrait accepter de perdre un tiers de son cheptel tous les ans? Et donc, le problème, c'est que moi, j'aimerais vivre de mon métier. Je respecte ceux qui veulent vivre de leur métier de façon différente, sauf que moi, je peux pas le faire.
On est allé en Cour de justice de l'Union européenne par rapport aux autorisations de mise sur le marché des produits pesticides. Donc moi, ce que je demande, en tout cas ce que nous, on demandait, c'est déjà minimum la fin de l'autorisation de nouvelles molécules, parce qu'il y a un conflit d'intérêts entre les boîtes d'agrochimie. Et derrière, c'est eux qui font les évaluations des risques, okay. Alors que c'est eux qui les vendent. Le gars, il va pas te dire que ce qu'il vend, c'est un poison.
Marie-Jo Leboul, j'habite à Pôle, donc j'interviens en tant que riveraine, consommatrice et habitante de la terre, comme chacun ici. Alors, on discute beaucoup sur les pratiques des uns et des autres, ça vire à moitié au règlement de compte, etc. Attendez, le bien commun, la terre, l'eau, l'air, c'est le bien commun.
Voilà.
Le problème aujourd'hui, on est tous concernés, que vous soyez en conventionnel, qu'on soit paysan ou pas, en bio ou pas, on est tous concernés parce qu'on est en train de respirer un air pollué par les pesticides.
Et dans le virage aussi. Avec les
je suis d'accord, mais
bien sûr.
Bien entendu, et on lutte aussi contre ce genre de pollution. Ce soir, la question, c'est les pesticides. On ne peut pas continuer à accepter de respirer un air pollué, de boire de l'eau polluée, etc. On va tous y passer. On a la possibilité de rectifier le tir et de faire en sorte qu'on puisse laisser à nos générations futures une terre qui soit encore vivable.
Reportage donc de Morgane Large et Inès Léraud, donc c'était à Glomel, et oui, bien sûr que c'est chaud, ça va l'être encore, mais c'est intéressant de voir quand même que cette parole, elle peut malgré tout exister, Frédéric.
Mais oui, c'est chaud, mais avant il n'y avait pas du tout, des débats comme ça, j'y assistais, ou j'ai participé parfois, il y en a aujourd'hui, il n'y en avait pas il y a 5 ans, ouais. Et il n'y en avait pas du tout il y a 10 ans. Aujourd'hui, les conventionnels acceptent de discuter avec les autres, et ils acceptent de discuter avec les autres, pourquoi? Parce qu'ils voient bien que leur modèle économique ne fonctionne plus, parce qu'ils voient bien que, ça ils n'osent pas le dire, mais que leurs copains, leurs voisins ont tous des cancers, ont beaucoup de cancers, une maladie neurodégénérative. Voilà, donc ils ont beau s'engueuler, c'est peut-être un dialogue de sourds, mais c'est pas grave, l'info passe et c'est quand même significatif d'un monde agricole qui est en train de changer. Dans 20 ans, dans 30 ans, même sans doute moins, il y aura plus les pratiques qu'on a aujourd'hui. On aura sans doute plus de pesticides parce que la société n'en veut plus et parce que le monde agricole, je pense inconsciemment, n'en veut plus, mais il lutte. Voilà, C'est la dernière chose, voilà, ils gueulent, mais finalement, je ne suis pas convaincu qu'ils veulent encore l'utiliser.
On va parler des labels aussi, quand même, dans quelques instants avec vous, Frédéric. Je tenais aussi à souligner un très bon numéro de Socialterre, Socialterre donc de février-mars. Sevrons l'agriculture, transition agroécologique, semences paysannes, sortie des pesticides, autosuffisance, bio pour tous, néo-paysans. C'est toujours très très bien fait, Socialterre. Donc voilà, ce numéro-là, il tombe absolument à point. Cette chanson-là aussi, elle a 16 ans, cette chanson. Est toujours d'actualité.
Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y'avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y'avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. Des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées. Et tous les éléments se sont vus maîtriser. En deux temps, trois mouvements, l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. C'est pas rien de le dire. D'ici quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais il y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongé dans les prés. Il y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. C'est demain que tout empire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on est des esclaves. Quelque part assassins ici, bien incapables de regarder les arbres sans se sentir coupable. À moitié défroqué, 100% misérable. Alors voilà petite histoire de l'être humain. C'est pas joli joli et je connais pas la fin. T'es pas né dans un chou, mais plutôt dans un trou qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire. Il faut que tu respires. Il faut que tu respires.
Mickey 3D, donc il faut que tu respires. Eh oui, toujours d'actualité. Nous poursuivons ce voyage au milieu de l'agriculture, évidemment, qui a 150 entrées. Je voulais qu'on revienne sur, là aussi, faisons de nouveau un peu de pédagogie sur les labels. Lorsque l'on dit label rouge, qu'est-ce qu'il faut comprendre ?
Le label rouge, c'est la garantie de la qualité d'un produit. Il y a un cahier des charges par filière. Il y a 427 filières, 427 cahiers des charges. C'est un label de haute qualité, notamment pour la viande bovine. Hein. C'est le seul label qui garantit une race sur un terroir, par exemple.
Les AOC et les AOP.
Alors les AOP c'est européen, les AOC c'est français, c'est exactement la même chose. Là on protège une provenance, on respecte des usages qui sont censés être locaux, loyaux et constants. Bref, on respecte une tradition, un savoir-faire, des produits qu'on ne peut pas faire ailleurs. Il y en a 453, dont 50 produits laitiers. Il y a beaucoup de dérives, on le voit bien avec le Cantal. Hein. Dans l'AOP Cantal, on peut avoir du lait pasteurisé, ce qui n'a pas de sens et ça vient d'être autorisé dans le camembert. Mais c'est déjà pas mal.
Le bio.
Ah, le bio. Alors, dans les AOP AOC, il y a aussi deux déclinaisons. C'est IGP et STG. Alors le bio, c'est dans le cahier des charges, malheureusement, ça n'est que finalement l'interdiction des OGM, l'interdiction des pesticides de synthèse, des engrais de synthèse.
Malheureusement, c'est déjà pas mal. Hein.
Non, mais c'est déjà beaucoup. mais il aurait fallu introduire dans ce cahier des charges toute la philosophie de la bio qu'on retrouve par exemple chez Nature et Progrès ou chez Demeter, c'est-à-dire le respect de toute la chaîne alimentaire qui va des producteurs aux consommateurs, en passant par les vaches, en passant par les zones humides, en passant par les etc. et les sols.
Le label Bleu Blanc Cœur que l'on voit fleurir.
Alors c'est pas un label, hein, c'est une marque Bleu Blanc Cœur. C'est une marque qui a été créée par les industriels du lin pour promouvoir la nutrition des animaux d'élevage par le lin. Pourquoi ? Parce que ça augmente le taux d'oméga 3 dans la viande. Néanmoins, c'est pas inintéressant parce que derrière ce label que l'on retrouve sur plus en plus de produits, on a l'obligation pour les producteurs d'avoir des élevages doux avec beaucoup d'herbes, avec des vaches qui passent du temps à l'extérieur et moins à l'intérieur. C'est pas si mal, il y a une obligation de résultat, surtout sur la qualité sanitaire.
Quand on parle des fermes à haute valeur environnementale.
Alors ça, c'est intéressant, c'est très peu connu. C'est une norme purement environnementale qui a été mise en place par la France. Donc on a trois niveaux, HVE 1, HVE 2, HVE 3. HVE 1, c'est un peu comme l'agriculture raisonnée, c'est pas la peine d'en parler. L'HVE 3, c'est une obligation de moyens sur des exigences environnementales, sur la biodiversité par exemple. Et le HVE 3, le plus intéressant, c'est une obligation de résultat. Vous devez prouver que vous avez plus de 10 espèces cultivées par exemple, ou que plus de 50% de vos parcelles sont en prairie. Là, on s'approche de presque un idéal agroécologique. Si le bio pouvait être HVE 3 et inversement, on aurait le Saint Graal, là, Denis.
Alors là, on va quitter les labels. Lorsque l'on parle de circuit court, avant tout un circuit court, qu'est-ce que c'est ?
Avant tout, un circuit court, c'est une réponse à la pauvreté, à l'appauvrissement du monde agricole. Le monde agricole s'est mis sur les circuits courts parce que ça lui dégageait des flux de trésorerie qui n'étaient pas captés par la grande distribution. Puis ça s'est développé parce que tout le monde y trouve son compte. Juste un chiffre, les agriculteurs qui sont en circuit court sont 5 fois plus nombreux à être passés en bio ou en conservation des sols ou en agroécologie que les autres. Pourquoi ? Parce qu'ils ont face à eux tous les dimanches, tous les jeudis, tous les samedis, quand a lieu le marché, ils ont face à eux les gens qui mangent ce qu'ils produisent.
D'accord, donc c'est pas une invention de Bobo de Paris 17e.
Pas du tout, on a l'impression que c'était inventé à Paris. Non, pas du tout. Les circuits courts, c'était les marchés de plein vent et ça renaît avec la crise au début des années 2000. Je donne juste un chiffre, HVE 3 c'est parfait, mais ça ne concerne malheureusement pour l'instant que 1518 exploitations sur les 437 000 qui existent en France. On est vraiment au tout début.
C'est formidable. Et en général, en exploitation, il y en a 10 000 à 20 000 qui dégagent par an. Hein. C'est à peu près ça.
Il y en a 2% qui dégagent par an. Pour l'élevage, c'est encore pire. On est entre 3, 5, 10%. Ça dépend des régions.
Ce que souhaite aussi l'Union Européenne, qui souhaiterait qu'on concentre encore plus ses affaires. Enfin,
qui aimerait avoir des grandes exploitations comme au Canada, des machins de 500 hectares. Bah oui, mais alors là, non, c'est pas possible, ça, Denis.
Oui. Un petit message, tenez, 01 56 40 40 35.
Bonjour, Didier de FN Rhône. Pour dire un mot d'un projet sur la vallée de la chimie au sud de Lyon, un projet complètement aberrant, la destruction de 25 hectares de forêts et pelouses restaurées aux portes de l'agglomération lyonnaise. Donc du fait des risques liés à la raffinerie qui entraîne le déplacement d'une grande pépinière qui est située à proximité. Sauf que rien n'oblige de choisir le site naturel qui a été retenu, un site remarquable, majeur pour l'agglomération. Il y a d'autres solutions ailleurs, beaucoup moins pénalisantes. Donc on vous invite à signer la pétition en ligne. Vous faites pétition sauvegarde de l'île de la Table Ronde. Vous aurez plein d'infos pour en savoir plus. Donc voilà, merci d'avance et merci à Denis pour son émission.
Alors sauvegarde de l'île de la Table Ronde, hein, c'était un peu la suite, si vous voulez, de la vallée de la chimie que j'avais fait donc il y a 2 semaines. Donc une pépinière est sur place, on est sur un site Céveso, il faut qu'elle déménage et donc il l'envoie sur un site naturel qui fonctionne très bien, de toute beauté, et donc on va virer de nouveau 25 hectares de ce côté-là. C'est absolument incohérent, mais ça c'est le préfet qui l'a décidé, alors qu'il y a sûrement moyen effectivement de le mettre ailleurs. Lorsque l'on met, Frédéric, dans les dernières questions, quand les agriculteurs vous disent on est là pour nourrir le monde.
Non, il nourrit surtout la grande distribution et la balance commerciale de la France qui est bénéficiaire sur l'agroalimentaire de l'ordre de 6 milliards d'euros. Ils pourraient déjà nourrir très très bien la France si on n'était pas condamné à exporter des produits pas de très bonne qualité. Non, ils nourrissent pas le monde.
Bon, merci beaucoup cher Frédéric. Donc on se retrouvera d'ailleurs aussi avec votre ouvrage, hein, je vous l'ai dit, le 16 mars, on sera en direct du Salon du Livre. Mais déjà, vous pouvez vous l'offrir, acheter bio, chaud. À qui faire confiance? Moi, je fais confiance aussi à Frédéric. Vous avez le numéro de Socialterre. Je vous l'ai dit, donc Sevran, l'agriculture. Merci à Julien Dumont qui était aujourd'hui à la technique. Et nous avons préparé cette émission avec Camille Blanès. C'est Hélène Biziot qui l'a formidablement réalisée, qui a apporté toute sa sensibilité, sa réalisation, sa colorisation sur les différents reportages. Merci à Thierry Dupin qui a choisi les disques. Anne Gouzon pour les sites. Et puis, la semaine prochaine, on va faire un petit tour du côté des Alpes parce que vous avez un documentaire, un film très bien sur les Alpes que Fred Fouja donc a signé. On en reparlera et aussi sûrement avec la voix du comédien qui a fait les commentaires. Je ne vous en dis pas plus. Le répondeur 01 56 40 40 35. Rediffusion entre 5h et 6h du mat. Le podcast, vous en avez l'habitude. Et puis, demain, ce sera un hommage à Tommy Ungerer dans La Tulu, mon petit loup à 19h54. Vous retrouverez sa voix après Les Petits Bateaux.